Delta Charlie Delta de Michel Simoneau. Trois ont franchi le seuil interdit. Du dehors vers le dedans. Du dedans vers un autre dedans. Nulle autorisation. Nul accueil. Nulle hospitalité. Nulle effraction. Un mur, le franchir. Devenir invisible. Trois corps plaqués au mur intérieur, à s'y emboutir. Dos collés, nuque collée, main collée à devenir ciment. Doigts écartés, tendus à se disloquer, à s'y fondre. Devenir paroi intérieure, enfouie dans la matière, dissous dans l'épaisseur de l'enclos. Trois enfants, le noir, l'arabe, le turc, on dit des journaux, la télé. Le turc n'est pas turc, il est kurde. Le noir, l'arabe, le kurde. Ils ne regardent pas les têtes de mort sur l'avertissement placardé. Ils courent, se hissent, franchissent, retombent. 200 morts, quatre parois autour des corps. Ils resteront silhouettes, chair noire, les os blancs, déposés ici, là, aucun couvercle, ouverts à la lumière, à la nuit, à la pluie, aux orages. Le troisième n'est pas mort, victime ou vaincu. Quel mot! Au pied du mur, des fleurs comme silence. Sur Internet, des blogs comme des mausolées, chants de colère comme deuil. Pour deux enfants morts, deux visages dessinés, une image comme un manque à ne plus percevoir que les bords de l'écran s'en font, un trou. Rien pour le survivant, témoin, complice, quel mot.
Tu es Ziyad.
Preuve, archive, quel mot.
Tu es Bouna.
Spectre, résidu de l'histoire des morts, quel mot.
Moi, Moutine, le toujours vivant.
Le survivant doit dire, on lui commande de dire, ne pas arrêter de dire, lui, le muet. Il demeure, la vie en bandoulière, les mains tendues au-dessus des braises.
Ziyad,
Mouitine,
Bouna,
nous sommes des prénoms.
17 ans.
15 ans.
15 ans.
Nous sommes des âges. Bena,
Altoun,
Traoré.
Nous ne sommes pas un événement.
Nous sommes des noms.
J'ai eu une histoire de vélo volé, je ne veux pas retourner en Tunisie.
Je suis le seul à lancer un marron au 16e étage. On m'appelle Lance-Pierre, mon copain m'a filmé.
Mon frère est tellement fort au foot qu'il a été envoyé au Havre en détection se faire entraîner. Moi aussi, je suis fort au foot ici dans la cité.
Je n'ai pas les mots, je ne parle pas bien le français. Si je vais au poste, on me renvoie là-bas.
On court, on trace.
Toi, celui qui survit, tu dois nous transformer en voix. Préservé de trop de larmes.
La douleur éblouit.
L'émotion aveugle.
Toi, celui qui demeure.
Il faut que tu veilles.
Que l'ivresse de la mélancolie
ne nous consume pas une seconde fois.
Aucun requiem. Soit un lien entre vivant et mort.
Là où naît parfois l'histoire.
Depuis votre mort, je cache mes cicatrices sous des t-shirts à manches longues. Je ne peux plus me mettre au soleil. Je ne peux plus toucher ma peau recollée par lambeaux. Chaque entaille, une peur pour les filles. J'ai peur de faire peur au regard des autres. Pour un simple contrôle, la police me tabasse. Je me sens coupable d'avoir survécu. J'ai envie de comprendre. Peur de souffrir davantage. On dit que je suis revenu de l'enfer. Pourquoi tant d'années pour me questionner? Maintenant que j'ai perdu les mots.
Dehors, ils vont pleurer, chanter.
Ils vont se mettre en colère.
Ils vont allumer les feux.
Il y aura de l'éloquence.
Des tremblements de la voix. Et après?
Et après?
Dehors? Combustion, déflagration, embrasement, combien de mots? Violence, vengeance, rage, combien de mots? Chaos, trouble, désordre, incident, événement, émeute, révolte, insurrection. Quel mot? Quel mot?
En 1212, trois riches marchands angevins furent attaqués et liés à un chêne alors qu'ils se rendaient à la capitale par la forêt de Bondy. Des brigands sauvèrent les trois hommes, ils furent délivrés par des anges, un miracle. Ce quartier, le chêne pointu, fut alors longtemps un lieu de pèlerinage.
27 octobre 2005.
La Toussaint, les vacances, le beau gosse bien sapé, Nike, Shox bleu et blanc, basket Converse noir et gris, coiffure branchée, coupée mi-tête, au coiffeur de Sevran, être beau pour la idée.
27 octobre 2005, après-midi.
Ils vont au stade, match de foot. À 18h, il sera l'heure de couper le ramadan. Ne pas rater la rupture du jeûne. Course au franprix du chêne pointu, au Lidl de Montfermeil. Il faut partir.
17h.
10 jeunes reviennent d'un match de foot, traversent un chantier.
17h17.
Depuis le chantier, un agent des pompes funèbres appelle la police.
Les jeunes courent, des silhouettes autour d'un cabanon. Il y a quelque chose de louche. Des blancs, un grand black, des africains.
17h23.
Des enfants en train de voler. Allez-y. Rue Jules Vallès, au funérarium, des cabanons de travaux. C'est reçu ?
17h24.
Trois voitures de la BAC, puis deux voitures de police, 14 policiers, un jeune arrêté, menotté. Il contourne le parc pour cerner les enfants.
On a lancé la sirène, ils sont partis en courant. Au cours ! Ça remonte très fort les postes. Des fois moins 6, hein ?
17h28.
Ils sont tous des portiquiens. La plupart 15-16 ans.
17h31.
Les jeunes courent au niveau du cimetière. Rapprochez du monde. Rapprochez du monde.
Trois voitures foncent, bloquent les freins, les pneus crissent. Les policiers sortent et courent. Poursuite, terrain de foot, portail, terrain vague, route du petit bois, talus, cimetière, centrale EDF. Six se font arrêter en chemin, un sur le chantier, trois dans un terrain vague, deux dans le cimetière. Il en manque trois. Un des policiers descend de sa voiture, course à travers les bois, poursuite des enfants.
Courir pour rentrer.
Comme on court pour rentrer dans un match de foot.
1500 mètres à courir.
Pour arriver, nous avons faim.
La rupture du jeûne, on peut pas rater l'heure.
Les témoins avaient 10 ans de moins lors des faits.
Le procès ne sera pas celui de la police nationale ni des émeutes qui ont secoué la France. Le tribunal juge des personnes physiques. Pourquoi les policiers vous poursuivaient ?
Le survivant interrogé avait alors 15 ans.
Je ne sais pas.
Le cabanon du chantier n'a pas été fracturé. Il n'y a eu aucun vol.
Quand il voit la BAC, Bouna entre dans le chantier. Les policiers sortent et commencent à courir. Tous les autres partent par le trottoir.
Pourquoi courir ?
La peur.
Avec le recul, vous êtes-vous posé des questions sur les choix que vous avez faits alors ?
J'aurais préféré me faire tabasser plutôt que de fuir.
Personne n'a été tabassé ce soir-là.
Le président regarde le survivant. Le survivant ne répond pas.
Je cours devant le groupe, je ne vois pas ce qui a commencé. On est 10, on a joué au ballon pour tuer le temps depuis 13-14 heures. L'heure approche de la rupture du jeûne. On a fait ça pour tuer le temps, c'est la Toussaint. On décide de rentrer, on commence à marcher, on voit la police, à 20-30 mètres, je sais pas. On se tient par la main, chacun à son copain. Bouna vient par derrière moi en courant. On lui demande pourquoi, il dit « Courez, ils sont en train de nous courser ». Je demande « Pourquoi tu cours ?» Il dit « Ils ont chopé Daou ». Mais qui il ? Il dit « La police ». Mais pourquoi ? Il dit « On est rentré dans le chantier ». Je dis « Mais pourquoi on n'a rien fait ?»
Dans le bois. Vous allez vers la gauche. Pourquoi ce choix ?
Je sais pas, l'instinct, la peur. C'est comme maintenant ici, je suis devant vous et j'ai peur, madame la présidente. Des fois, je sais plus. Les policiers arrivent sur la droite, ils sont derrière moi, je vais pas m'arrêter pour tout prendre, me faire tabasser. On est au cimetière, on voit une nouvelle voiture de police, elle arrive très vite, on a de nouveau très peur, je me retourne et on n'est plus que trois.
On court.
Les policiers courent.
Tout le monde court parce que tout le monde court.
On trace.
On accélère.
On se sépare. On est trois dans le cimetière.
Les policiers sont dans le cimetière.
On se cache derrière les tombes. On se baisse.
On se faufile.
Il faut être rapide. Du cimetière, on voit comme une citadelle.
Un mur.
Des barbelés.
On les poursuit dans le cimetière. Du cimetière, on voit des barbelés, des tags. On se cache derrière les tombes. On se baisse. On se faufile. Faut être rapide. Du cimetière, on voit comme une citadelle, des barbelés. Je m'accroupis en mode interpellation.
Oui, messieurs les juges, dans certains quartiers de France, courir devient une infraction pénale.
17h32.
Les trois enfants grimpent les 3 mètres impossibles du mur d'enceinte du site d'EDF.
On escalade derrière la chute.
Ils sont en train d'enjamber le portail EDF. Il faut ramener du monde. Fermez le quartier. Ils vont bien finir par ressortir. En même temps, s'ils rentrent sur le site, je donne pas chaud de leur peau. Vous entendez ?
Une 17h33.
À la radio, la policière du standard entend la phrase. 25 policiers entendent la phrase, puis 5 minutes de silence. À 17h47, toutes les voitures de police quittent les lieux. Le policier rédige son rapport. Libération des gardés à vue.
Vous poursuivez les enfants.
On a entendu les bruits sur les feuilles mortes. On s'est accroupi, on s'est rapproché. On voit deux individus. Un est déjà sur le terrain adjacent à la centrale. Un second termine d'escalader le grillage côté terrain.
Pourquoi ne pas crier auprès des enfants que vous cherchez dans la centrale ?
Je ne vais pas crier auprès de gens que je ne vois pas.
Qu'entendez-vous, monsieur, par « ils vont bien ressortir » ? quand vous dites qu'ils sont en train de s'introduire sur le site EDF.
C'est pour indiquer une direction, pas un acte certain, je n'affirme rien. Je choisis de ne pas crier, je repars à l'entrée du cimetière, fais le tour, continue à chercher. Mon expression « je ne donne pas cher » de leur peau, c'est une expression orale fort maladroite. J'ai dit ça pour attirer l'attention. Je comprends que ça heurte les parties civiles, j'en suis désolé.
La radio parle d'enfants. Aviez-vous conscience que vous poursuiviez des enfants ?
Non, j'ai des enfants, c'en était pas. Je n'avais pas l'impression. Je ne me suis jamais considéré comme un chasseur, un chien fou. Ce jour-là, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous.
Vous cherchez à voir des personnes que vous ne voyez pas ? Pourquoi ne cherchez-vous pas à communiquer ? Pourquoi ne cherchez-vous pas à protéger des personnes qui pourraient être là ?
Bon, écoutez, je ne souhaite pas répondre.
Expliquez-nous le sens de cette phrase « ils vont bien ressortir ».
Pour moi, ils s'introduisent dans un petit terrain entre la centrale et le cimetière. Ils sont là.
Comment expliquez-vous que la policière du standard dise « j'ai su qu'il y avait une introduction possible dans la centrale ». Le policier les voit, avec certitude, en train d'enjamber un site mortel. Que dit-il ? Il faut cerner. Une autre policière dit « je sais qu'ils sont dans la centrale ». Qu'en avez-vous conclu ? Que leur vie était en danger. Sans plus. Ils sont 14 policiers dans le cimetière, pas un qui aurait posé la question « et les enfants dans la centrale ?» Comme par hasard, à ce moment-là, 5 minutes de silence total sur les trafics radio.
Au standard, j'ai entendu « je ne donne pas cher de leur peau ». Si j'avais connu le danger, j'aurais bien entendu répondu. Je ne voyais pas une centrale EDF. Je pensais que c'était des bureaux. Je n'avais pas de plan de la ville. Si j'avais su que c'était une centrale, j'aurais appelé EDF. J'avais le numéro devant les yeux.
Quand le policier vous dit qu'il ne donne pas cher de leur peau, ça ne change rien.
Non, je ne savais pas.
Le professeur de droit dit « il y a presque présomption de connaissance du danger ». Ses fonctions et les capacités du policier lui permettent de discerner le danger. Le représentant de l'État dit au policier « l'État estime que vous n'avez jamais failli à votre mission. » La policière pleure, le policier pleure.
17h32,
fin de la course.
Nous sommes à l'intérieur.
Quatre murs.
L'horizon.
Qui nous voit ?
L'éclair dans 40 minutes.
Nos visages
ne sont pas encore affichés à l'extérieur du mur.
Nous sommes ici.
Dedans,
au fond.
Nous n'avons pas peur du noir.
Un chien qui aboie.
On se colle.
On se serre.
On entend les sirènes par en haut.
Des reflets rouges et bleus tournent sur les fils électriques.
Ça donne le vertige.
On sent qu'il ose.
Il faut qu'on se remue.
On remue les bras.
On remue les pieds.
Le chien qui aboie.
Nous sommes dans un rêve.
Et nous allons nous réveiller.
Je veux sortir de là.
Ziad ne veut pas. Il a peur de la réaction de son père. Il va m'envoyer au bled.
Sa dernière phrase.
17h50.
Les policiers ont quitté les lieux.
18h.
Le policier qui a suivi Muitin, Ziyed et Bouna et a prononcé dans la radio « je ne donne pas cher de leur peau » est revenu au poste. Il repassera plus tard près de la centrale EDF par hasard, dit-il, pour une autre affaire. Les trois enfants sont à l'intérieur depuis 17h32, depuis 28 minutes. Maintenant, 11 minutes 43 secondes avant l'électrocution.
Ziyed approche un pied de la bobine.
L'arc se tend entre nos têtes.
Choc.
18h.
Tremblement.
11 minutes.
Secousse.
43 secondes.
20 000 volts nous soulèvent du sol.
Électrocution de Ziyed et Bouna. Durée de l'électrocution, 24 secondes. Le technicien EDF dit...
Il nous a fallu 30 minutes pour désactiver le courant dans la réactance. La mort de Ziyed et Bouna est datée au millième de seconde.
Le pompier dit...
Je m'approche. Je sens l'odeur. Je sens la température. La mousse sort d'un individu. Il est collé au transformateur. L'autre dessous.
Réactance. Petit édifice. Quatre murs de béton au milieu de la centrale électrique. Une porte en PVC. 2,50 m de haut. Un petit cercle rouge au milieu. Aucun plafond. Il faut laisser sortir la chaleur. Des dizaines de milliers de volts. Une porte fermée par un cadenas. Un panneau d'avertissement.
Stop. Ne risque pas ta vie.
37 cm entre les trois enfants et le cercle rouge. 37 cm pendant 20 minutes. Un espace mortel à moins de 10 cm.
18h, 11 minutes, 43 secondes.
Court-circuit, panne d'électricité. La lumière s'éteint pour 200 000 personnes. Nuit dans la ville, nuit dans les cuisines, nuit au commissariat.
C'est la panne ? Vous êtes en train de rédiger votre rapport ? Vous en êtes à la page 3.
Oui, et je me dis, il y en a marre de ces locaux et de travailler dans ces conditions.
Le survivant, 200 degrés sur la peau. Sauvé de la mort par la mort de Ziyed et Bouna, vêtements collés à la jambe et à la droite du corps. Le survivant demeure plus de 20 minutes aux côtés des morts. Il reprend conscience, se relève, cherche pierre, bloc de ciment, regrimpe les murs, sort du transformateur. Son corps est fumant, brûlé, brûlant. Dehors, personne. Il se sauve, il court. Il se perd, il court, trouve ses copains, les ramène jusqu'à la centrale. Les copains crient, le survivant crie. Il veut aider ses copains morts. Les pompiers le mettent de force dans l'ambulance.
L'électricité m'a soulevé. Je suis retombé. Soulevé, retombé, soulevé, retombé. Je me réveille. J'arrive pas à crier, pas à me lever. Plus de voix. Demander de l'aide, j'y arrive pas. Je me lève. Du mal à marcher. Personne. Le soleil est en train de se coucher. Rentrer chez moi. Je n'y arrive pas. Je croise des gens appelés à l'aide. Pas la force. Je reconnais rien. Je me perds. Je boite. Mon jean est brûlé, collé dans la peau. Je suis sorti de là-bas pour trouver quelqu'un pour aider mes amis. Marcher, je n'y arrivais pas. J'étais comme une batterie qui se décharge.
Il est brûlé. On s'approche de lui. On sent sa chaleur qui augmente.
Ses vêtements collent à sa peau. Il répète « Bouna Zied, Bouna Zied ».
On doit abandonner tout ce qui est métallique pour approcher de la centrale tellement ça chauffe.
On court avec lui.
Depuis le bois, on voit d'en haut la réactance.
On s'approche du mur.
Les techniciens EDF.
Si les policiers avaient signalé dès leur départ des lieux, on aurait pu les sauver.
18h46.
On appelle les pompiers.
On leur dit, il y a nos petits frères, ils sont dans l'agence EDF.
Ils sont tombés, ils ont eu des coups de volt.
Les pompiers nous demandent, ils sont conscients, vos frères?
On leur dit, on sait pas, on les trouve pas, on s'est perdu, on a cherché.
On a compris qu'ils étaient dans la centrale.
On attend.
On a attendu encore plus longtemps qu'à la NPE.
On a même battu le record d'attente du consulat.
Les pompiers arrivent.
On les voit, ils reculent devant la chaleur.
Cisaille la porte, casse le cadenas.
Retire les objets métalliques, force la porte de la réactance.
S'arrête, se bloque comme gelé.
Ils disent, ils ont grillé, ils sont morts.
Je vais devant l'entrée. Là, un agent de police. Je lui dis, c'est mon frère. Il contrôle mon identité. Les habitants regardent, voient, comprennent. Alors là, ça s'échauffe.
Vous avez dit, je ne donne pas cher de leur peau. Comment pouvez-vous dire que vous ne saviez pas?
Le standard du commissariat, lui, savait. Ils ont dit 3 enfants sur le site. Alors, comment pas vous?
Je rentre au commissariat. Je ne suis au courant de rien.
Votre collègue recommande d'aller jeter un œil au cimetière.
Pour moi, c'est fini. Aucune possibilité de danger. Je vais vérifier la centrale. Pour moi, c'est terminé.
Il est alors 17h53, 19 minutes avant la mort de Ziyad et Bouna.
Je suis l'agent du funérarium. Sur le chantier, c'est moi qui appelle le 17. Un groupe de jeunes à l'entrée du chantier. Ils venaient du stade. Ils marchaient tranquillement, ils se coursaient. Ils s'insultaient gentiment comme des jeunes de 15 ans. Je me sens écœuré d'avoir prévenu la police. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Il serait encore en vie.
18h56.
44 minutes après l'électrocution.
En urgence, le V833 vient d'être requis par les sapeurs-pompiers. Les pompiers courent dans tous les sens. Les enfants auraient été électrocutés sur le site EDF. Ça correspond à l'affaire de tout à l'heure.
Donnez des renseignements. Est-ce que des enfants sont touchés?
Et pour l'instant, on essaie de régler le problème avec les grands-frères qui viennent nous casser les bonbons. Urgent, apportez du monde. Il y a les grands-frères qui viennent foutre le bordel.
Si vous avez besoin de renforts, on va vous les envoyer, mais modérez vos expressions.
Dès 18h59, le major de la salle de commandement sait qu'il y a 3 enfants, alors que les pompiers n'ont pas encore communiqué le nombre d'enfants. Pourquoi?
Écoutez, je ne sais pas. Je ne me souviens pas à quel moment j'ai eu ce chiffre.
Ce qui nous intéresse, c'est les victimes. 30 minutes que vous êtes sur place et vous ne parlez que des attroupements. Ce qu'on veut savoir, c'est les circonstances. Est-ce que c'est fortuit? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce qu'ils étaient poursuivis par la police?
Et à 19h, vous revenez tout à fait par hasard près du site EDF pour un contrôle de routine sur une autre affaire.
Oui. Je ne voulais pas laisser traîner cette autre affaire.
19h15.
Le capitaine des sapeurs-pompiers annonce qu'il y a 2 Delta Charlie Delta à l'intérieur du transformateur. 2 Delta Charlie Delta et un blessé. Les pompiers disent, ils ont grillé, ils sont morts.
19h15.
La mort des 2 enfants est officiellement déclarée.
19h42.
Le SAMU se positionne en retrait en raison des premières échauffourées.
19h49.
Identification de la première victime. La victime a 16 ans. Elle s'appelle Bravo, Oscar, Uniforme, November, Alpha.
19h50.
La hiérarchie policière demande s'il y a des traces d'effraction sur le transformateur.
19h51.
La hiérarchie policière demande une nouvelle fois si le cadenas a été forcé. Réponse négative. La famille de Bouna est sur place.
20h.
Les pompiers annoncent aux parents la mort de Ziyad. La hiérarchie demande à quel hôpital Mouitine sera amené. Insiste.
20h02.
Des crises d'hystérie, de délire, des chagrins et des pleurs suite à cette annonce sur le Delta Charlie Delta.
La hiérarchie expédie trois voitures de la BAC. Assis sur l'hôpital, Moody est emmené. Aucune adresse.
20h07.
Premiers affrontements devant le commissariat.
20h12.
Deux unités mobiles de sécurité appelées autour de la cité du Chêne Pointu.
20h16.
Premier incendie de véhicule à Clichy-sous-Bois.
20h22.
On apprend le nom du deuxième. Zulu, India, Alpha, Delta.
20h22.
Voiture brûlée à Tremblay en France.
20h36.
Une voiture de police caillassée, Square Lénine.
20h37.
Voiture en feu à Villepinte, ça commence. Ça gagne.
octobre, lendemain de l'électrocution.
Il est 10h15, 18h après l'électrocution. Le survivant brûlé est aux soins intensifs en chambre stérile. La police vient l'interroger. Opposition des médecins à l'interrogatoire. La police impose l'interrogatoire.
Pourquoi vous avez couru ?
La police, des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. En tout cas, la ville a été...
On court toujours quand ça court. On entend les sirènes, on court. On voit les gyrophares, on court. On court, la police court. La police court, on court. On n'a pas nos papiers avec nous. Jamais quand on sort. Tellement de mal à les obtenir. Rangé à la maison. Bien rangé. On a peur de les perdre. Ne pas les perdre en courant, sinon... Regarde le bordel que t'as foutu. Maintenant, signe la feuille. J'ai les mains brûlées. T'as qu'à mettre une croix.
Le progrès par l'électricité. 1822, Lucien Goulard invente le transformateur. Titre du brevet, nouveau système de distribution de l'électricité pour servir à la production de lumière et de la force motrice. Refus de réception du brevet. Motif, l'inventeur veut faire quelque chose de rien. Procès contre des concurrents, perd son procès, est ruiné. 1er février 1886, il se présente à l'Élysée. Il dit au concierge, je suis Dieu et je veux la paix universelle. Il est enfermé à Sainte-Anne et meurt en novembre suivant. Son nom est donné à une rue qui ne comprend qu'un seul immeuble. Il y a 750 000 postes de transformation haute tension, classe AB.
octobre, 18h, 11 minutes et 43 secondes.
Électrocution, court-circuit dans la ville, décharge dans la ville. Héraclès a voulu ramener Cerbère, Orphée a voulu ramener Eurydice, Ulysse a voulu ramener Tirésias. Ici, qui peut ramener les vivants des flammes ? L'époque a besoin de chair brûlée. 4 mois avant l'électrocution, le ministre de l'Intérieur dit « Je vais nettoyer la cité au Karcher. » 2 jours avant l'électrocution, le 25 octobre 2005, le ministre de l'Intérieur dit « Vous en avez assez de cette bande de racailles ? Eh bien, on va vous en débarrasser. » Le lendemain de l'électrocution, le 28 octobre, le ministre de l'Intérieur dit « La police ne poursuivait pas physiquement les jeunes électrocutés. » 3 jours après l'électrocution, le 30 octobre, à 10h31, le procureur dit
« Il ne s'agissait pas de délinquants, ils se sont crus poursuivis, alors qu'à aucun moment ils ne l'ont été par les services de police de Livry-Gargan. »
Des excuses de sa part, parce qu'on ne traite pas un groupe de jeunes, de racailles, de différents quartiers, n'importe quel quartier, alors qu'on ne les connaît pas.
Le terme « nettoyer » au Karcher est un terme qui s'impose.
On nettoie les trafics.
On nettoie pas des gens.
Prométhée a oublié l'étincelle dans le transformateur. Le 27 octobre, le soir même de l'électrocution, 5 nuits d'incendie, attaque de transport, destruction, affrontement. 2 novembre, propagation en France. 8 novembre, décret d'état d'urgence. La première fois depuis la guerre d'Algérie. Le 14 novembre, il est prolongé de 3 mois. Le 16 novembre, un ministre et responsable parlementaire déclare que la polygamie constitue l'une des causes des violences urbaines, ce qu'avait dit 6 jours plus tôt le ministre de l'Intérieur. Comparution immédiate, couvre-feu, interdiction de rassemblement, assignation à résidence, limitation du droit de la presse, perquisition, concurrence aux images, surmédiatisation, spectacularisation, voyeurisme, prolifération des caméras, provocation à la compétition, faire tomber les murs des quartiers, contamination dans les villes, se faire voir, faire parler des événements, refluer le jour, déferler la nuit, chaque nuit, devenir enfin visible, exister enfin aux yeux des autres. 3 semaines d'émeute. La police stoppe la publication des chiffres des voitures brûlées. 300 bâtiments, 10 000 véhicules incendiés, 130 jeunes et policiers blessés, 2 734 personnes gardées à vue, 489 majeurs écroués, 108 mineurs, 55 villes touchées, des événements dans 6 autres pays d'Europe. À la télévision,
en France, à l'étranger, images de meutes, de guerres, de dévastations. Les immigrés, les hordes sauvages envahissent les villes, incendient la France, les touristes évitent la France. Images du pays à feu et à sang, pays en guerre civile, incendiaires en capuche à chaque coin de rue.
À Clichy, on n'a pas accès aux médias. On n'arrive pas à faire porter sa voix. Le ministre de l'Intérieur a repris le rapport des policiers. Il dit qu'il n'y a pas de course-poursuite. On a caché la vérité. L'effet est terrible. La colère, l'exaspération. On ajoute à la douleur l'humiliation. On commence à mentir pour s'assurer que c'est un venin qui se répand. Rien ne sera jamais su. Pour que le mensonge tienne, il faut que le survivant ne parle pas. On ose l'interroger à l'hôpital le lendemain. La veille, il errait dans les rues, le corps fumant, fou de chagrin, gravement blessé. Les policiers cherchent à authentifier la version du vol. Je ne dis pas que les deux prévenus policiers sont des mauvaises personnes, mais seul leur cerveau d'interpellateur a fonctionné. N'oubliez pas, il n'y aura jamais eu la moindre infraction commise par les enfants.
Le procureur dit :
Les équipages de police ne s'inventent pas des jeux de rôle pour passer le temps. Bien sûr qu'ils courent. C'est leur métier aux policiers de courir après. On n'intervient pas à Clichy comme dans une ville pavillonnaire bretonne. L'intervention n'était pas disproportionnée. Le droit exige une certitude. Cette certitude que les trois adolescents courent un péril imminent, ni le policier ni la policière ne l'ont. Quelle raison aurait-il eu de laisser deux jeunes courir un danger mortel ?
L'avocat dit :
Des gamins qui courent sans savoir pourquoi la police les poursuit, des fonctionnaires qui ne savent pas davantage pourquoi ils courent après les gosses.
Dans les journaux, dans les médias, un ministre déclare :
Moi je récuse le fait ou l'idée de penser que la difficulté ou la désespérance sociale ou la difficulté sociale conduit à la délinquance.
Le tribunal considère qu'il ne peut s'en tenir à l'analyse sémantique superficielle de la phrase. En même temps, s'ils rentrent sur le site EDF, je ne donne pas cher de leur peau. Pour en déduire la prise de conscience effective et véritable par le prévenu d'un péril réel, grave et imminent à cet instant. Verdict du tribunal. Relax définitif des policiers.
Ziyad et Bouna sont morts en fuyant la police. Pas en nez dans leur prochain.
Merci. Personne ne les a envoyés à la mort.
Déjà, il faut pas avoir un gros QI pour se planquer dans une centrale électrique.
C'était des musulmans.
Ils veulent entendre que Ziyad et Bouna sont des victimes, pas des délinquants.
Attention, ne cirez pas le parquet. C'est glissé, ce serait de votre faute et ils porteraient plainte.
J'espère qu'il y aura une plainte pour violation, car les grillages dépassent les 2 mètres. Et puis un procès pour faire payer les dégâts.
Lorsqu'ils étaient petits, est-ce que leurs parents les laissaient mettre les doigts dans les prises électriques ?
Un poste de transformation EDF n'est pas un parc pour un jeu de cache-cache, hein ?
Moi j'ai vécu en banlieue 20 ans, j'étais très bien. Là où j'habitais, un nouveau peuple agressif s'est installé, faisant fuir les Français de souche.
Donc, à vous lire, il n'y a ni racisme, ni discrimination, ni inégalité.
Clichy-sous-Bois n'est pas un ghetto, mais c'est le journaliste. Vous devriez vous excuser d'écrire des titres pareils qui effrient les populations. C'est facile quand on a le pouvoir d'écrire dans un journal.
En quoi d'avoir été au milieu d'une tragédie donne le droit de jeter des cailloux sur des voitures de police ?
Pourquoi on court quand on est sans infraction ?
Ils veulent être encore victimes d'une bavure pour passer à la télé ?
Lorsqu'il y a un contrôle de police, on part pas en courant. On saute pas un mur de 3 mètres. Et on rentre pas dans un transformateur électrique.
Moins de venir d'un pays, on ne sait même pas ce que c'est un transformateur électrique.
Et ne pas comprendre ce que veut dire un petit bonhomme plié en deux avec un éclair au-dessus de sa tête.
Afin de réhabiliter les transformateurs ERDF, rarement esthétiques et souvent tagués, une convention entre la ville ERDF et le Centre communal d'action sociale a été signée. Il en existe plus de 300 sur la ville. Pour les fondre dans le paysage de façon harmonieuse, des artistes ont été mis à contribution. Peintre ou graphiste, il s'inspire du paysage urbain ambiant pour donner une identité et une âme à ces murs disgracieux. Autrefois souillés de bien des façons, les transformateurs deviennent œuvres d'art, rendant l'environnement plus agréable. Des artistes locaux apportent leur créativité et leur talent et chacun marque de sa patte artistique les transformateurs. Ils ont choisi de peindre un point d'eau, un paysage, un petit prince, un carrousel, des chevaux, des fruits, des fleurs,
des insectes, des animaux. Chaque œuvre étant un écho au quartier.
Dans 40 minutes, deux d'entre nous seront morts. Qui nous voit ?
Nous sommes à l'intérieur, au fond, dedans.
Contenus par 3 mètres d'enceinte.
Tendus de trop d'énergie.
De foudre, de faim, de fuite.
Nous sommes au début de l'histoire.
On sortira pour un pays plus clément comme les hirondelles.
On se tait.
Le silence ricoche.
Se blesse au ciment.
Se brise aux parois.
Éclate.
Vers le ciel.
Sans écho.
pierre,
béton,
acier,
porte cadenassée,
martelé,
frappé,
cogné,
qui va se taire le plus fort.
Aucun de nos visages n'est encore collé sur le dehors des murs.
Pas encore affiché dans la ville.
Pas encore imprimé sur les t-shirts.
Pas encore dessiné sur les pancartes des défilés.
Pas encore chanté par les rappeurs.
Pas encore dans les poèmes sur internet.
Seront dessinés, affichés, chantés deux visages.
Ceux des morts.
Mais pas le visage du survivant.
Pas ses yeux, pas sa bouche.
Pourtant nous sommes trois, ici, dedans.
On doit remuer, ne pas s'ankyloser.
Bouger les mains à plat.
Presser contre le mur.
Ne pas décoller du mur, sinon...
Les sirènes de la police tournent dans le ciel.
Le chien aussi.
Quoi, le chien ?
Là-haut, tu entends ?
Le chien dehors, quelque part.
Je veux aller vivre à Paris, c'est mieux qu'ici.
Ici ?
Pas ici, la cité.
Tu ne parles pas assez bien le français.
Tu y as été ?
Oui, traverser tout Paris jusqu'au bout, de l'autre côté.
On est descendu sous la terre.
C'est quoi ?
Des tunnels.
Des galeries souterraines.
Des crânes entassés.
Un cimetière vu par-dessous.
Des étagères de crânes sans peau.
Sans visage.
Des trous noirs dans les yeux.
Quand tu ressors sur la place,
tu vois une horloge dans un mur.
Une horloge ronde, petite.
Qui donne l'heure pour toutes les autres horloges.
Les horloges de partout.
On a tous le même temps réglé sur cette horloge.
Le même ?
Oui, ils ont dit, ça s'appelle...
D'enfer.
Combien de temps on reste ici ?
Tends le bras vers moi.
Non, on lève pas les bras.
Non, pas encore.
On va graver nos noms ici, en dedans du mur.
Ça grince, arrête, ça fait mal aux oreilles.
Ça n'écrit pas ton caillou.
Oui, mais ça entaille, ça ne s'effacera pas.
Tu vas faire saigner le mur.
Il y a déjà des griffes, des trous.
On les compte, les trous ?
Il y en a trop, des pas gros et des profonds.
Tiens, là. Un vrai trou, on voit à travers.
Venez voir, on voit à travers.
Quoi ?
Rien, il fait noir.
Il faut qu'on sorte ici.
S'arracher.
Non, ils sont encore autour. Écoutez les sirènes.
Tant qu'on n'est pas vu, il se passera rien. Restez dans l'ombre.
Restez en dedans.
Sous les fils d'acier.
Lancés au-dessus de nous.
Les réverbères qui s'allument là-bas, loin, au-dessus.
Jaune d'abord,
puis blanc.
Puis notre ombre.
Regardez, on a plusieurs ombres chacun.
Regardez.
Ils tournent autour.
Les reflets des gyrophares sur les fils au-dessus. Une salle d'attente.
Une gare
trop haute de plafond.
Sans plafond.
On est la nuit, nos yeux grands ouverts.
On attend.
On attend un train. Tu entends ?
Ça cogne contre les rails.
Vous entendez ?
Non.
J'ai trouvé un reste de bougie. On l'allume.
Je ne te vois plus.
Je ne te vois plus.
Je ne te vois plus.
J'oublie ton visage.
J'oublie ton visage.
J'oublie ton visage.
De quoi te souviens-tu ?
Nous ne savons pas la fin de l'histoire.
Nous parlons encore au présent.
On se dirait que nous sommes dans une histoire.
On peut l'inventer.
Celle qu'on pourra raconter quand on nous demandera.
Un roman.
Un feuilleton.
Une série.
Un documentaire.
Un jeu vidéo.
Nous ne parlons déjà plus comme des enfants.
Qui nous empêche de jouer ?
Les secondes vont être longues. Il nous reste combien de minutes ?
Pourquoi t'éloignes-tu ? Ne t'éloigne pas, reste près de nous.
Tous les trois.
Pourquoi ris-tu ?
Regardez-nous. On est comme chez nous, on tient les murs. Je compte à trois, on lâche le mur. Je compte et un pas en avant.
Pas moi, pas envie, trop tôt.
Allez !
Allez, non.
Trop tôt.
Une odeur de fête quelque part.
Et le chien qui aboie, c'est agaçant.
Quoi ?
Ce chien.
On n'entend rien.
Sauf le chien qui aboie.
Comme un métronome.
Sauf que c'est un chien. On pense à eux.
À qui ?
Eux dehors.
Chant toujours nouveau.
Chant enfoui depuis longtemps.
Trop longtemps.
Ici, entre ces quatre murs, on peut dire ce qu'on veut.
Inventer des mots.
Des gros mots.
Des petits.
Des n'importe quoi.
Hé hey,
oh, oh.
Vous entendez comme ça circule ? Ça cogne aux parois et ça s'envole.
Des taches noires passent.
Des chauves-souris.
Les chauves-souris, c'est aveugle.
Ça me fait peur.
Elles volent sans se cogner.
Elles n'ont pas peur ?
Elles voient sans les yeux.
Chut. Ici, dedans, il n'y a pas que du déchet.
Il y a de l'herbe verte.
Encore verte.
Personne pour l'arracher.
Il faudra pourtant.
Quoi ?
L'arracher pour qu'elle reste verte.
Ceux qui nous regardent depuis les écrans
nous écoutent en sachant la fin.
Nous regardent depuis les images de la fin de notre histoire.
Nous ne parlons plus au présent.
L'éclair tombe des cintres.
L'horizon doit déjà être rouge.
Je te dis je.
Et tu réponds je.
Tu me dis je. Et je réponds je.
Chacun dit je.
Alors ?
Alors oui.
Alors ?
Par-dessus le mur, nous disons je. Et tu ?
À qui ?
Au dedans et au dehors.
On leur dit nous.
À qui ? On est arrivé ?
On est arrivé.
On a trouvé l'endroit.
On a toujours eu peur.
Et ici ?
Ici, on ne court pas.
Personne ne court.
L'unique endroit pour rester immobile.
On se donne la main, comme tout à l'heure sur le chemin.
Entre les tombes, on ne pouvait pas se donner les mains.
Se tenir les mains.
Il fallait se baisser.
Se lever.
Se cacher.
Se baisser.
On ne rentre plus chez nous.
Le soleil se couche.
Dehors, il parle de nous.
Ici, ce n'est pas assez grand pour refaire le monde.
Non. C'est assez haut.
Tu crois qu'on va mourir ?
Non. On est encore des enfants. Maintenant, on n'est déjà plus que des prénoms.
Les deux prénoms des deux morts.
Et lui qui reste ?
Pour raconter l'histoire.
Nos prénoms comme mot de passe.
Là où nous gisons, nous avons le prénom.
Se passer nos prénoms comme on se donne la main.
Nos prénoms.
Les revenants.
Nos prénoms.
Pour rejoindre les autres.
Prénoms ouverts disponibles.
Prénoms comme une langue.
Prénoms se remplir de corps.
Nos prénoms.
Une peau sur nos corps.
Nos prénoms.
Une peau sur leur corps.
Prénoms à sculpter l'air.
Irrespirable.
Jeter nos prénoms.
Comme on jette les pierres.
Sur Internet, des blogs comme mausolée, des fleurs au pied du mur, déposées, simplement déposées. Des mots sur des lambeaux de papier à la place de la tombe de pierre, des chants qui portent, des pas tendus, un mouvement, une marche, en garder la foulée.
Depuis le cimetière, nous avions imaginé une citadelle. Nous avons trouvé la chute du haut d'un mur. De quel côté de la paroi sont les dieux? De quel côté est tombé le tison? Prométhée l'a jeté par les villes, éparpillée en cendres vives. Comme l'ange, il attend l'histoire. La trouve, se déchaîne.
Dans le cimetière, le passé s'est compacté. Trop de morts, trop de chair décomposée, trop de cadavres. Nous faisons un excellent compost pour le chauffage urbain. Oxydation, fermentation, allumage. Les morts vivants s'embrasent. Aux très hautes températures, seules les bactéries survivent.
Les dieux croyaient les tombes cadenassées, les couvercles plombés. Les tombes se sont ouvertes, les couvercles de pierre ont sauté. Des fous se sont montés les djinns, morts vivants, sans voix, cherchant les pierres à tâtons. Leurs mains se détachent, deviennent débris, projectiles. Froid, ombre qui s'embrase. Les doigts sans peau ramassent les graviers, lancent leurs débris d'os. Les gisants remuent, crient et tendent des arcs de feu. Les banlieues débordent, l'humiliation dégorge, rampe. C'est dalle.
Les voitures brûlent, on existe. Une voiture en feu, ça éclaire autour de nous, on nous voit. L'arc électrique entre nos têtes pénètre la ville, rebondit de capot en capot, éclate les pare-brises. Le feu s'enfonce, devient racine, chemine à fleur de terre, affleure le sol, ressort, devient branche, fleurit. La racine replonge et ressort, explose les vitrines. Ils vont nous arroser comme un vulgaire incendie. Ils ne savent pas qu'arroser le fumier fait monter la température.
Les corps ont quitté les tombes, maintenant vides. Les trous vomissent des cris de feu. Les tombeaux étaient plus remplis qu'on ne le croyait. Ici gît le semblable avec le semblable. Et les sépulcres sont plus ou moins brûlants. Ils nous ont rouvert le couvercle du temps. Des gisants font face aux vivants, courent, se multiplient. Là, hors de la tombe, le temps se réinvente.
Nous ne sommes pas des reliques. Nous ne sommes pas des autels. Nous ne sommes pas un pèlerinage. Nous ne sommes pas une lamentation.
Haïssons les idoles.
Nous préférons les pierres, les cailloux, les fronts.
Pour échapper aux chasseurs.
Chasseurs à vue.
À prononcer les mots.
Je ne donne pas cher de leur poids.
Les gyrophares voulaient nous ensevelir, sans jugement. On nous croyait oubliés ici.
Où sont les témoins?
Cloués au silence.
Nous ne serons rien sans les images. Ici, nous sommes le presque rien. Des restes de la nuit comme uniquement un reste. Rien à voir à Clichy-sous-Bois. Cité du chêne pointu, cité des rats des poubelles sans fond, cité d'un autre monde, ils ont dit, ils ont cru, ils veulent nous punir de notre innocence, nous n'avons pas souffert. Le feu cherche sa sortie et la trouve.
Au sommet de la bougie, une flamme disparaît, remonte. La combustion se libère, devient incendie. Quel mot? Émeute, événement, révolte, pas de requiem. C'est une histoire de lien entre mort et vivant. Là où naît l'insurrection. On brûle, on casse pour être des vaincus et non pas des victimes. Est-ce qu'il faut n'être plus rien pour devenir homme? Où pouvons-nous aller? Qui va parler de nous? Être souvenir, c'est déjà trop pour eux. Même les cendres, ils les haïssent. Ils en ont peur.
Nous sommes une minorité.
Ils en ont peur.
Peut-être dormons-nous.
Et quand nous nous réveillerons,
tout sera en ordre. Rien à voir à Clichy-sous-Bois.
Rien à voir.
Rien à montrer.
Ouvrir des mots seulement.
Prononcer.
Lancer des sons.
Dire.
Ne pas arrêter de dire.
Au port des morts.
Qui survivra au-delà de ces nuits d'incendie? Le mur n'est pas l'horizon.
Ils ont écrit « Mort pour rien » sur le mur dehors, sur les t-shirts, sur Internet. Des filets de silence. Des silences qui se retiennent par le bras. Croyant voir leur visage, on n'en voit que les images, morts pour qu'on les regarde. Des reflets sur des écrans, aussitôt allumés, aussitôt éteints. Quelques larmes entre deux paillettes, une émotion aussitôt dissoute dans la suivante. L'écran s'éteint plus vite que les fleurs ne fanent sur les murs du transformateur.
Nous cherchons une lueur qui nous éclaire.
On court.
Tout le monde court.
Vers la fin de l'histoire.
Nous sommes dans le poème.
Nous sommes le poème.
Nous sommes la fiction.
L'impuissance.
Notre combustion intérieure.
Notre combustion intérieure.
15 décembre.
50 jours après l'électrocution, celui qui demeure sort de l'hôpital. Famille, copains, journalistes, caméras, élus, éducateurs, des chants, une cohue. On l'attend. Sur son t-shirt est écrit « Mort pour rien ». Titre de la chanson des rappeurs. Chant des filles, trop de monde. Sa capuche comme bouclier. son col relevé, serré devant sa bouche. Maintenant, le survivant doit refaire le récit. Sans fin, on lui demande de raconter la course, l'électrocution, la mort des deux amis. Il dit, redit. Ça y est, j'en ai trop dit, ça sert à rien. D'où il est venu, là-bas, il y a 15 ans, ce mélange des Arabes, des Turcs, des Kurdes. On dit que là est la fontaine d'Abraham. Il fait un voyage en Turquie, sur un journal sa photo avec son t-shirt Ghetto Fabulous Gang, le nom d'un groupe de rap. On le traite de gangster. Aux chaînes pointues, il rentre tous les soirs à 19h, son père veille. Un soir, il va chercher du pain. Un policier l'arrête et lui demande « Pourquoi tu cours ?»
Disparaître
de 16 décembre, le lendemain de sa sortie de l'hôpital, 19h, il sort de chez lui, s'enfuit, disparaît. Le soir, il est devant le commissariat des policiers qui couraient il y a 51 jours, qui les ont poursuivis jusqu'au transformateur. Il crie, crie vers le sol, crie vers le ciel, à se déchirer le ventre, la bouche, à perdre la langue.
Que la police termine le boulot, la paix, tuez-moi.
N'ayez pas peur de me tuer. Ils ont mis le feu, ça y est. Maintenant, vous pouvez éteindre. On ferme les micros. Je suis mort dans le transformateur. Nous avons cru que nous pouvions toucher le cercle rouge sans danger. Nous étions si près du déchaînement, nous ne le savions pas. Tuez-moi. Je suis déjà mort le 27 octobre à 18h11min43s. Regardez un enfant, c'est regarder votre peur.
Tirez, n'ayez pas peur.
C'était « Delta Charlie Delta » de Michel Simoneau, enregistré en décembre 2017 avec les élèves comédiens de la promotion 2018 du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, Héloïse Manessier, Rose Martine, Louise Horry Diquero, Louis Nelson de la Palme, Charlie Fournier, Eugène Marcuse, Josué Ndofoussou, Édouard Penaud et Souleymane Silla. Musique originale, Judah Warski. Conseillère littéraire, Caroline Wasana. Prise de son, montage, mixage, Manuel Couturier, Dali Yaha. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation, Christophe Hoquet. Delta Charlie Delta de Michel Simoneau est publié aux éditions Espace 34.